Pour beaucoup, vous le connaissez déjà ou vous l'avez aperçu, puisque jusqu'à l'année dernière, il était enseignant à l'école. Maintenant, il est à Paris 4 et il va nous entretenir de la grâce chez Saint-Augustin, qui était son sujet de thèse. Voilà.
Merci beaucoup. Je serais content de venir parler. Toujours content de venir parler d'Augustin, c'est un vrai plaisir. Alors, effectivement, je vais vous parler de ce qu'on appelle communément, une expression que vous trouverez un peu partout, c'est la doctrine de la grâce chez Augustin ou la doctrine augustinienne de la grâce. Et ce que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que c'est une expression qui est, à mon avis, et je parle probablement en disant ça plus en lecteur d'Augustin qu'en universitaire, une expression qui est largement impropre. Largement impropre, même si j'ai été le premier à l'utiliser dans mon titre de ma thèse et que j'utilise aussi généralement. Mais je vais essayer de vous dire pourquoi il me semble que quand on prend la pensée d'Augustin sur la question de la grâce, en la présentant comme un système, comme une doctrine, comme l'ont fait d'une part ses adversaires et d'autre part ses plus grands admirateurs, on va souvent droit au contresens. Et je vais essayer de vous parler de ça. Comment il faut prendre, à mon avis, la pensée d'Augustin sur la grâce? Bon, la question de la grâce, je ne vous apprends rien, c'est pour Augustin la question des rapports entre, d'une part, l'initiative humaine et, d'autre part, l'aide que Dieu apporte pour accomplir des actions justes. Et l'idée fondamentale d'Augustin, c'est que l'homme ne peut rien faire, d'aucune manière, de juste, s'il n'est pas spécialement aidé par Dieu pour chaque action qu'il accomplit. Ça, c'est l'idée fondamentale, et je vais essayer de la développer. Pour commencer, je vais vous lire rapidement un petit texte que j'aime beaucoup, d'un auteur qui est un des auteurs les plus fascinants que je connaisse, mais qui, en l'occurrence, a écrit un monceau de bêtises, qui s'appelle Borges, que vous connaissez, qui est un auteur merveilleux, qui a écrit un ouvrage un peu étrange, entre autres, qui s'appelle L'histoire de l'éternité, que je vous conseille de lire, un peu déstabilisant, et dans lequel il fait une petite notice d'une dizaine de lignes consacrée à Augustin. Ça prend l'apparence d'une notice, d'encyclopédie. Quand vous la lisez, vous tirez d'Augustin, alors que tout est vrai littéralement, si vous voulez, vous retenez d'Augustin une image qui, à mon avis, est radicalement fausse, à peu près l'opposé de ce qu'il faut penser sur l'évêque d'Hippone. Je vous lis ça rapidement, ça me donnera l'introduction de mon topo. 400 ans après la croix, au moins il a la datation juste, le moine anglais Pélage, c'est le principal adversaire d'Augustin, provoqua un scandale en osant dire que les innocents qui meurent sans baptême connaissent la gloire du Seigneur. Augustin, évêque d'Hippone, réfuta sa thèse avec une indignation dont se félicitent ses éditeurs. Ça, c'est moi. Il mit en relief les hérésies de la doctrine de Pélage, qui est détestée des justes et des martyrs. Cette doctrine nie qu'en l'homme Adam nous ayons déjà tous péché et péri. Elle oublie de façon abominable que cette mort se transmet de père en fils par la procréation charnelle, etc. etc. Le Britannique, Pélage, avait eu l'audace d'invoquer la justice. Le saint, comme toujours extraordinaire juriste, accorde que selon la justice, tous les hommes méritent le feu sans rémission, mais que Dieu a décidé d'en sauver certains, selon ses voies impénétrables, ou comme dira Calvin, parce que tel est son bon plaisir. Ce qui est fascinant dans ce texte-là, c'est qu'en 15 lignes, vous n'avez que des propositions exactes prises séparément. Augustin a dit tout ça. Augustin a effectivement dit que les enfants morts avant d'avoir été baptisés iraient en enfer. Ça le gênait comme proposition, il essayait de trouver des aménagements, mais il l'a dit. Augustin a effectivement dit que le péché originel se transmettait par la relation sexuelle et la procréation, et qu'à cause de ce péché originel, à cause du péché d'Adam, il n'y avait pas un homme sur terre qui pouvait se conduire de manière juste par ses propres forces. Augustin a effectivement dit que la seule manière dont un homme pouvait se conduire justement, c'est si Dieu décidait de toute éternité de lui donner sa grâce. Et il a effectivement dit que cette décision de donner ou de refuser la grâce, c'était une décision que Dieu prenait sans avoir de compte à rendre. Non seulement sans avoir de compte à rendre, mais sans que l'homme puisse en aucune manière percer ses motivations. C'est-à-dire qu'il dit toujours la même chose, il y a nécessairement un critère des décisions divines, que Dieu ne prend pas ses décisions de manière arbitraire, gratuitement, il y a un critère, mais ce critère, non seulement c'est impossible pour l'homme de le trouver, mais en plus, c'est extrêmement contre-productif, et dangereux de le chercher. Et donc, effectivement, il y a une forme, si on veut résumer ce qu'on appelle la doctrine de la grâce, elle tient dans cette doctrine de la prédestination, qui dit que de toute éternité, Dieu a décidé qui serait sauvé et qui serait condamné, que ceux qui sont sauvés, c'est ceux à qui il donne sa grâce, et que ceux qui sont condamnés, c'est ceux auxquels il la refuse. Et que dans un cas comme dans l'autre, dans l'ordre de la justice comme dans l'ordre du péché, il n'y a absolument aucune place a aucune forme d'autonomie humaine. C'est-à-dire que le pécheur pêche à cause du péché d'Adam. Hein, le juste se conduit justement par l'action en lui de la grâce du Christ. Tout ça, c'est des propositions qui sont strictement et rigoureusement augustiniennes. Et la présentation de Don Borges, là je l'ai choisie parce qu'elle est un peu moins connue que celle d'autres auteurs, mais c'est globalement ce que vous trouverez chez les adversaires d'Augustin, contemporains d'Augustin qui résument sa pensée. C'est pas très étonnant. C'est ce que vous trouverez aussi chez beaucoup d'admirateurs d'Augustin, par exemple au XVIIe siècle. Hein, quand vous lisez ce qu'écrit quelqu'un comme, enfin, je vous conseille pas de le faire, hein, quelqu'un comme Jansénius, parce que c'est très long et incompréhensible, mais quelqu'un comme Jansénius, quand vous lisez ce qu'en écrit quelqu'un comme Pascal, hein, dans les écrits sur la grâce, qui là sont une tentative, pas de vulgarisation, mais au moins d'explication, de commentaire de la pensée d'Augustin. Et tous les meilleurs lecteurs d'Augustin au XVIIe, c'est des gens, je ne suis pas en train de dire que c'est des mauvais lecteurs d'Augustin, c'est des gens qui ont une connaissance d'Augustin qui est infiniment supérieure à celle que j'aurais jamais. Hein, c'est des gens qui ont lu Augustin en intégralité 20 fois, qui maîtrisent la plus fine articulation de sa pensée. Il n'empêche qu'ils ont dit des bêtises. Hein, il n'empêche que parce qu'ils ont pris la doctrine d'Augustin comme une doctrine, enfin, la pensée d'Augustin comme une doctrine, comme un système, ils arrivent immanquablement à des conclusions qui sont, à mon avis, hein, l'inverse de ce que voulait montrer Augustin. Et c'est valable encore chez les auteurs modernes, hein, chez des critiques au XXe siècle, qui, généralement des adversaires ou des gens qui critiquent la pensée d'Augustin, pour montrer que c'est un auteur qui est détestable, parce qu'il n'y a rien de plus antipathique qu'un auteur qui écrit froidement que les enfants morts sans baptême iront brûler dans une... Augustin dit qu'effectivement, ils subiront des châtiments et des châtiments durs en enfer. Hein, c'est très antipathique, ça. À côté de ça, Pélage qui dit « mais non, on va trouver des aménagements », apparaît comme un humaniste très sympathique, et de fait, c'est ce qu'il est. Je leur dirai un mot tout à l'heure, mais Pélage est quelqu'un de sympathique, quelqu'un de brillant et quelqu'un de sympathique. Hein, donc, si vous voulez, à toutes les époques, chez les adversaires comme chez les partisans d'Augustin, il y a eu des présentations systématiques de la pensée de l'évêque d'Hippo. C'est-à-dire qu'on a essayé de reconstituer une doctrine, c'est-à-dire un enchaînement de principes, qu'on pourrait suivre extrêmement logiquement pour résumer mécaniquement, comme un tout constitué, la pensée d'Augustin. Alors qu'est-ce que ça donne de manière, ce qu'on appelle la doctrine de la grâce chez Augustin, ça part généralement de l'exposé de ce que c'est que le péché originel. Hein, le péché originel, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est, mais c'est l'idée, alors, dont vous trouverez écrit parfois ou dont vous entendrez dire parfois qu'elle a été inventée par Augustin, ce qui est évidemment une ânerie, mais elle a été formalisée. C'est le premier auteur qui donne à l'idée de péché originel, après Paul, un contenu vraiment fort, beaucoup plus que ses prédécesseurs, c'est effectivement Augustin. Hein, qu'est-ce que c'est l'idée du péché originel pour Augustin ? C'est l'idée que Adam, quand il a péché, n'a pas engagé seulement sa responsabilité propre, mais a engagé d'une manière mystérieuse l'ensemble, la responsabilité de l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire que le péché d'Adam n'a pas seulement rendu coupable lui, mais tout homme qui va naître, à partir de ce moment-là, va être affligé de deux peines. La première, c'est d'une faiblesse de sa nature. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Adam a péché, il a hypothéqué l'ensemble de la nature humaine. C'est-à-dire que tout homme qui naît en possession d'un libre arbitre déséquilibré. C'est-à-dire d'un libre arbitre qui n'est pas indifférent entre le bien et le mal, entre le péché et la justice, mais que si on le laisse aller, on le laisse suivre son mouvement, le libre arbitre humain ira immanquablement au péché. Il aura l'impression d'être libre, et de fait ce sera une décision qu'il prendra de sa propre initiative, mais il ira au péché, immanquablement, à cause d'Adam. Et ça c'est valable pour l'ensemble de l'humanité, sans exception, la seule exception évidemment étant le Christ. C'est déjà très embêtant tout ça. La deuxième conséquence du péché originel est encore plus ennuyeuse, c'est que non seulement vous, tout le monde, moi selon Augustin, est affligé de cette faiblesse de la nature, mais en plus, vous naissez porteur d'une culpabilité quasi juridique. C'est-à-dire que vous, l'enfant qui naît, avant d'être racheté par le baptême, est coupable du péché d'Adam. Hein, ce qui veut dire que si... C'est pas par... Enfin, je dirais ce que ça n'est pas, mais... Disons que l'enfant qui naît, le bébé est très mignon... et qui n'a visiblement pas d'usage de son libre arbitre, autrement dit qu'il ne peut pas avoir de mérite ou de démérite personnel, hein, qui certes ennuie ses parents parce qu'il fait des caprices mais on ne peut pas lui en vouloir, et bien c'est pas grave, il est coupable. Il est coupable du péché d'Adam. Ce qui veut dire que s'il meurt avant d'avoir été baptisé, logiquement, il faut qu'il aille en enfer. Il n'y a pas d'autre solution possible pour Augustin. Donc, à cause du péché originel, vous avez deux conséquences, une culpabilité juridique, qui explique que sans le baptême, vous êtes condamné, et une faiblesse de votre nature qui fait que sans une aide spéciale de Dieu pour chaque acte, vous allez commettre inévitablement, nécessairement des péchés. Alors il n'y a pas besoin d'être un grand théologien pour se rendre compte des complications, enfin des problèmes logiques que ça pose. Le problème logique le plus évident, c'est la possibilité d'affirmer simultanément que vous êtes contraint au péché et que l'action que vous accomplissez sous une contrainte qui ne relève pas de vous est un péché. Hein, est-ce que vous pouvez vraiment être responsable moralement d'une action que vous accomplissez alors que vous êtes déterminé de l'extérieur par un ancêtre à l'accomplir? Bon, ça, c'est un des problèmes que va devoir affronter Augustin. Donc, la première étape de sa doctrine, c'est ça. Hein, le péché originel qui se transmet dans la procréation, dans l'acte sexuel, de génération en génération, et qui n'est racheté que par le baptême qui est offert par le Christ. Hein, ce qui veut dire, et ça c'est une des choses qui est le plus reprochée à Augustin par ses lecteurs, qu'il considère l'humanité comme ce qu'il va appeler en latin une massa peccati, hein, une massa damnationis, autrement dit une masse de péché, une masse qui est vouée à la damnation. C'est-à-dire que si on prend l'humanité et qu'on la prend en tant que telle, sans que Dieu lui apporte aucune aide, eh bien, dit Augustin, l'ensemble de l'humanité devrait aller à la damnation, c'est tout ce qu'elle mérite. Il n'y a pas une partie de l'humanité, il n'y a pas un homme qui mérite d'être sauvé. Hein, ce qui, évidemment, si on le présente comme ça, est absolument sinistre. Hein, et absolument pas sympathique. Hein, et, les textes d'Augustin qui présentent cette doctrine de cette manière-là, hein, selon l'enchaînement logique que je viens de vous dire, péché d'Adam, responsabilité collective, tout le monde à la damnation, on ne peut pas dire que ça respire la joie de vivre et l'amour chrétien, si vous voulez. Donc la deuxième étape, c'est de dire ça, que l'ensemble de l'humanité mérite la condamnation. Alors fort heureusement, il y a un revers de la médaille, un bon côté des choses, c'est que Dieu choisit gratuitement, alors que rien ne l'y oblige, puisqu'il pourrait condamner l'ensemble de l'humanité, qu'il l'a mérité. Que ce ne serait pas une injustice de la part de Dieu d'envoyer tout le monde en enfer, mais il décide miséricordieusement d'en sauver une partie. Il aurait pu ne pas le faire, et il n'a pas à justifier ses choix. C'est-à-dire que si l'homme, toutes les objections que l'humanité pourrait élever, pourquoi il choisit l'un plutôt qu'un autre, pourquoi est-ce qu'il ne sauve pas tout le monde, à chaque fois il y a une seule réponse, c'est l'homme n'a pas à discuter avec Dieu. Ça, ce n'est pas inventé par Augustin, hein, il tire ça de la lettre de Paul aux Romains, mais c'est Augustin qui, encore une fois, donne à ces textes-là leur portée, leur expression la plus forte. Hein, l'homme n'a pas à discuter avec Dieu, Dieu a choisi de sauver une partie de l'humanité, hein, l'homme n'a qu'à rendre grâce à cette miséricorde et espérer qu'il va se retrouver dans le bon camp. Hein, ça aussi, si vous voulez, c'est tout à fait sinistre à première vue. Ça donne l'impression que les gens qui sont sauvés ne l'ont pas mérité. C'est ce que Borges dit... il a sauvé une partie de l'humanité, quia voluit, parce que c'était son bon plaisir. Il n'y a pas un mérite, la grâce de Dieu n'est absolument pas donnée en fonction des mérites de l'humanité. C'est-à-dire qu'il a décidé de choisir des gens qui sont pécheurs, il aurait pu choisir le voisin, il ne l'a pas fait. Hein, ce qui est pris, Paul prend l'exemple de Jacob et Ésaü. Hein, alors Augustin fait un contresens sur le passage de Paul, parce que Paul, quand il commente Ésaü et Jacob, n'a visiblement pas en tête l'idée de parler de leur salut éternel, mais Paul s'est appelé à Augustin parce que Jacob et Ésaü sont deux jumeaux, hein, il n'y a pas de mérite et de démérite, ils ont été choisis dès avant leur naissance, ils sont identiques, même parents, conçus au même moment, il n'y a aucune raison de choisir l'un plutôt que l'autre, hein, et bien Dieu va en choisir un et Dieu va rejeter l'autre, dit Augustin. Hein, et ça, c'est un mystère qui est sinistre des deux côtés de l'humanité, si vous voulez. C'est sinistre pour les gens qui sont condamnés, c'est pas très réjouissant pour la vision du juste, si vous voulez. Parce que la vision du juste, présentée comme ça, c'est quelqu'un qui n'a aucun mérite, qui n'a rien fait pour gagner la grâce. Il doit juste remercier le ciel qu'on la lui ait donnée. Et ça, hein, cette vision assez grandiose, il faut le dire, mais pas très réjouissante de l'ensemble de l'humanité divisée en deux camps, c'est ce qu'on appelle la prédestination. Je suis désolé, je fais quelque chose de très mal poli, mais c'est que je n'ai pas de montre, donc je surveille mon temps sur mon téléphone. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la prédestination. La prédestination, c'est simplement le fait que Dieu a décidé de toute éternité, avant même que l'homme, qu'un quelconque homme ait pu prendre une décision autonome, qui serait sauvé et qui serait condamné. Bon, je parlerai plus longuement tout à l'heure, enfin plus précisément tout à l'heure, de ce qu'on entend par prédestination et par double prédestination. Hein, mais si vous voulez, la doctrine d'Augustin, ce que ses adversaires de son époque jusqu'à aujourd'hui, comme ce que ses partisans en particulier au XVIIe siècle, ont retenu de la doctrine d'Augustin, c'est cet enchaînement-là. Péché originel, condamnation méritée par l'ensemble de l'humanité, grâce donnée gratuitement à une petite partie de l'humanité. Augustin aggrave son cas en disant non seulement il choisit une partie seulement de l'humanité, mais il n'en a pas choisi beaucoup. Alors que rien n'exigeait de lui, dans les textes qu'il commente, de dire ça. À aucun moment, il était forcé par un texte de dire que Dieu avait essayé de choisir une petite partie de l'humanité. Mais Augustin prend toujours grand soin de dire il n'y en a pas beaucoup. Ça non plus, c'est pas très réjouissant et pas très sympathique. Hein? Donc, nécessité de la grâce pour une partie de l'humanité et mise en forme grandiose de l'ensemble, ce qu'on appelle la doctrine de la prédestination, avec un Dieu sévère qui décide, selon son bon plaisir, de sauver une partie de l'humanité, de condamner une autre, et qui fait ça uniquement sur un critère qui est inconnu de nous, qui ne nous sera jamais révélé, hein, et qui existe, mais dans la mesure où on ne le connaît pas, qu'il existe, nous fait une belle joie. Donc c'est ça ce qu'on appelle communément la doctrine de la grâce. Pourquoi est-ce qu'il me semble que cette présentation est extrêmement insatisfaisante? Pour plusieurs raisons. D'abord, il faut avoir une chose, vous avez déjà entendu parler d'Augustin, donc vous le savez probablement, mais il faut toujours le répéter, Augustin, contrairement à des théologiens qui sont eux des esprits systématiques, Augustin n'a jamais écrit de traité théorique. Il n'existe pas dans l'œuvre d'Augustin un seul traité théorique. Il n'existe que des ouvrages de circonstances. C'est-à-dire qu'il a écrit sur la grâce un certain nombre de traités théologiques, effectivement, qui traitent de problèmes donnés, mais à aucun moment il n'a livré de traité qui résume l'ensemble de sa pensée, qui la présente sous l'aspect d'un système, qui récapitule l'enchaînement des étapes. Chacune de ses œuvres traite un problème qui a été soulevé par un de ses adversaires, que lui-même a trouvé particulièrement stimulant, mais à aucun moment il n'a eu ni le loisir, parce qu'il était très occupé, ni l'envie d'écrire quelque chose qui présente sa pensée, ses conclusions, sous la forme d'un système. Ça, c'est ce que fera quelqu'un comme Jansénius, et c'est inévitablement une catastrophe. C'est ce que fera quelqu'un comme Pascal qui s'en sort mieux. Hein? Mais c'est quelque chose qui est extrêmement, à mon avis, étranger à la manière de penser d'Augustin. Donc première chose, il n'a jamais écrit de traité qui avait une ambition théorique. Deuxième chose, il aurait été extrêmement étonné, et il était extrêmement étonné, qu'on le considère comme un théoricien, comme un doctrinal, et comme quelqu'un qui avait créé une doctrine qui lui était propre. Ce n'est pas un effet rhétorique, hein? Il en aurait été extrêmement surpris. Augustin se considérait de deux manières. Hein, il se considérait comme un pasteur, c'est-à-dire comme quelqu'un qui avait charge d'âme, et qui essayait de réfléchir à la meilleure manière de sauver les âmes dont il avait la responsabilité. Et ma foi, sauver les âmes dont il a la responsabilité, ça implique de réfléchir un petit peu à ce que Dieu exige de l'humanité. Hein, et il se considérait comme un commentateur de textes. On dit, il pensait à aucun moment, Augustin n'a pensé créer un système qui lui était propre. Pour dire les choses un peu brutalement, Augustin, il est probable que si on avait eu l'occasion de lui demander qu'est-ce que c'est que ta doctrine de la grâce, il aurait dit c'est la lettre aux Romains commentée. Et de fait, l'essentiel de l'œuvre d'Augustin sur la grâce, c'est un commentaire de toujours les mêmes passages qu'il approfondit, dont il corrige les interprétations de l'épître de Paul aux Romains. Donc lui, il n'avait ni l'ambition, ni l'intention de faire d'écrire un traité théorique, d'écrire une somme théologique, de mettre en forme une doctrine de la grâce. Ce qui s'est passé, c'est un enchaînement sur lequel il n'avait pas la main, c'est qu'il a publié peu de temps, à la fin du IVe siècle, au début de sa vraie carrière, si vous voulez, il a publié son autobiographie, parce qu'on discute beaucoup si on a le droit d'appeler ça une autobiographie, mais si ça c'est pas une autobiographie, je vois vraiment mal ce qu'on peut appeler comme ça, mais il a publié les Confessions, et à partir du moment où il a publié les Confessions, il a rencontré des adversaires. C'est-à-dire que pour des raisons qui sont de bonnes raisons, hein, un certain nombre de chrétiens, qui sont certes des hérétiques, mais des chrétiens fort estimables, ont réagi de manière parfois violente à ce qu'il disait dans les Confessions. Je vais y revenir dans un instant, vous expliquer pourquoi. Et il y a eu une série de réactions, grosso modo, il y a eu trois grands adversaires. Celui dont parle Borges, qui s'appelle Pélage, qui était vraiment un type brillant, vraiment quelqu'un qui avait de l'ampleur, hein, qui est hérétique, dont les commentaires sont visiblement à contresens, hein, on ne peut pas s'en tirer autrement, mais c'est un grand esprit. Hein, et c'est quelqu'un pour qui Augustin avait de l'estime, au moins jusqu'à un certain point. Donc d'abord, il y a eu Pélage, et ensuite, il y a eu quelqu'un qui était beaucoup moins brillant que Pélage, qui s'appelait Julien Desclanes, qui était un évêque italien cette fois, et qui a entraîné le débat sur les questions du mariage, de la sexualité, pas tellement par intérêt théorique, mais parce qu'il sentait que c'était le point faible d'Augustin, et il avait raison. Hein, Julien Desclanes, c'est pas un théoricien génial, mais c'est un polémiste brillant. Il a senti qu'Augustin avait une faille, c'était la question de la sexualité, ce qui est vrai. Hein, et il a dit, très bien, on va porter la discussion là, et il a écrit livre sur livre sur livre sur livre sur la question, au point qu'Augustin était noyé, et de fait, Augustin s'en sort très mal. Hein, les livres qu'Augustin a écrits à Julien Desclanes sur la question du mariage, de la sexualité, etc., c'est une catastrophe. C'est les textes qu'aujourd'hui on lit le moins possible, parce que les côtés les plus désagréables, les plus embarrassés de la pensée d'Augustin, ils ressortent de manière... Enfin, Julien, ce n'était pas un grand esprit, mais c'était un excellent adversaire. Et ensuite, il a eu affaire, donc la dernière étape, à des moines, cette fois à des chrétiens, qui n'avaient rien d'hérétique pour le coup, dans la région de la Provence, hein, ce qu'on a appelé les semi-pélagiens, ce qui est une bien mauvaise manière de les traiter, qui eux apportaient la discussion sur des questions extrêmement théoriques, extrêmement précises, et qui là aussi ont poussé Augustin dans ses derniers tranchements. C'est-à-dire qu'eux ont amené Augustin à tirer toutes les conclusions de ses thèses jusqu'au point où ça devient inacceptable. C'est eux qui ont amené Augustin à discuter précisément dans ce qu'il entendait vraiment par prédestination, au point qu'Augustin, en poussant ses idées à bout, finit par tenir des propositions qui sont gênantes d'un point de vue logique, et c'est pour ça que parfois, il y a des impasses dans la pensée d'Augustin. Il y a des affirmations d'Augustin sur la grâce qui ne tiennent pas logiquement. Alors, fort heureusement, ce n'est pas sur les points principaux, mais il y a des moments où il y a des impasses logiques qui sont d'ailleurs extrêmement intéressantes, parce que c'est là qu'on voit pourquoi et comment il pensait. Alors, une fois que je vous ai dit ça, que les traités hétérodoxes, c'est un enchaînement, ce qu'on appelle la doctrine de la grâce, c'est un enchaînement de traités polémiques, hein, sur lesquels Augustin n'avait pas forcément la main. C'est-à-dire, c'est pas lui qui décidait sur quoi la discussion se portait, c'était ses adversaires. Hein, et ça, c'est gênant quand même. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait ce qu'il voulait, Augustin. Il a paré à gauche, paré à droite, selon les attaques qu'il rencontrait. Souvent, la question qu'on pose très souvent quand on discute de ces histoires-là, enfin je fais comme si on posait beaucoup de questions sur Augustin, c'est pas vrai, hein, mais la question qu'on me pose majoritairement sur ces questions-là, c'est si je veux m'intéresser à la doctrine de la grâce, qu'est-ce qu'il faut lire, quel traité il faut lire. La réponse qu'on trouve généralement, et qui n'est pas une mauvaise réponse, même si c'est une mauvaise réponse, c'est que le cœur de la pensée d'Augustin sur la grâce se trouve dans un traité qui a été considéré par les augustiniens de toutes les époques, et en particulier au XVIIe siècle, comme vraiment le sommet de la pensée d'Augustin, là où il livre le cœur de sa réflexion. C'est un traité que vous ne connaissez pas, et c'est normal, qui s'appelle le De Correptione et Gratia, hein, sur la réprimande et sur la grâce. C'est un traité qui est passionnant, dans lequel il pose ses distinctions théoriques les plus, vraiment les plus fulgurantes, enfin là où vraiment d'un point de vue théorique, c'est extrêmement brillant, mais il ne faut certainement pas commencer par ça. Le livre qu'il faut lire, parce qu'on n'y comprend rien, si on n'est pas déjà très au fait de ce qu'il veut dire sur les questions de la grâce, si on lit le De Correptione et Gratia, on meurt d'ennui au bout de 20 pages, et on ne dure pas très longtemps. Ce qu'il faut lire, et le vrai livre d'Augustin sur la grâce, celui qui dit ce qu'il faut savoir sur la grâce chez Augustin, c'est évidemment les Confessions. Hein, et sachant qu'il faut le prendre en plusieurs parties, mais ça, les Confessions, on peut quasiment comprendre tout ce qu'Augustin a voulu dire sur la grâce simplement avec les livres 1 à 10 des Confessions. Et même probablement uniquement avec le livre 10 des Confessions. Si vous voulez vous renseigner sur ce que c'est que la grâce pour Augustin, vous lisez, alors j'exagère un peu en disant simplement le livre 10, mais le récit de sa conversion et le récit de sa vie d'évêque. Pourquoi ? Parce que c'est là que vous comprenez que, quand je disais que les Confessions c'est une autobiographie, à mon avis c'est vrai, mais j'irais même jusqu'à dire que l'ensemble des traités d'Augustin sur la grâce et l'ensemble de la pensée d'Augustin sur la grâce, c'est une pensée autobiographique. C'est-à-dire qu'il n'a dit tout ce qu'il a dit sur la grâce à uniquement qu'en raison des expériences que lui, chrétien, converti à 30 ans, baptisé tardivement et devenu évêque contre son gré, a connu. C'est-à-dire que ce qu'on appelle doctrine de la grâce, c'est simplement l'expérience personnelle d'Augustin qu'il a essayé de développer, qu'il a essayé de comprendre, qu'il a essayé d'approfondir. Pourquoi je vous dis ça ? Vous connaissez, hein, à peu près, enfin, maintenant vous connaissez bien, parce que je ne suis pas le premier à vous en parler, et puis vous êtes fort cultivé, c'est pas ce que je voulais dire, mais vous connaissez un peu l'histoire de la vie d'Augustin, hein, en particulier, vous savez donc qu'il est né dans une famille un petit peu chrétienne, hein, sa mère l'était, son père non, qu'il n'a pas été baptisé, et que lui s'est écarté de l'Église. Bien, ce qu'on dit moins, c'est que jusqu'à sa conversion, donc jusqu'à sa 31e année, 32e année, Augustin, c'est une success story extraordinaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui naît dans une petite ville d'Afrique, qui fait des études qui l'amènent de plus en plus vers une grande ville, et qui est quelqu'un d'extraordinairement brillant. Ça, il faut insister, c'est pas parce que je suis fan de cet auteur et que je passe une bonne partie de mon existence avec lui, mais c'est vraiment un esprit supérieur. C'est vraiment quelqu'un qui faisait l'admiration, on s'en rend compte d'une manière simple, il faisait l'admiration d'absolument tout le monde autour de lui. Il n'y a pas un correspondant d'Augustin, il n'y a pas un habitant de l'Afrique romaine, y compris les plus brillants, les plus forts, tous mouraient d'admiration pour Augustin. Là, c'est sensible dans les lettres qu'il recevait. Il recevait des lettres dans lesquelles des grands esprits, des types brillants, lui disaient « Il n'y a que toi qui peux m'expliquer ça. Il n'y a que toi pour comprendre ça. » Quand il y avait un problème en Afrique sur un point de théologie, les évêques disaient « Ça, on a quelqu'un qui va nous régler ça. on envoie quelqu'un pour le remplacer à Hippone quelque temps, on le fait travailler, on aura nos réponses. Hein, c'est quelqu'un d'incroyablement brillant et qui s'est élevé d'une famille pas bien riche et d'une toute petite ville d'Afrique à 30 ans, au moment où il se convertit, juste avant sa conversion, il occupe le principal poste universitaire de l'époque. Hein, il ne l'occupe pas forcément uniquement en raison de ses qualités intellectuelles, mais en grande partie quand même. C'est le plus grand professeur d'université de l'Empire romain. C'est celui qui tient la chaire de rhétorique à Milan. On ne peut pas faire plus prestigieux pour le type d'études qu'il a fait, pour le métier qu'il a fait. Il est au sommet de la carrière quelqu'un qui a fait des études de lettres à l'époque peut faire. Et tout le monde l'admire, et s'il avait voulu, il aurait pantouflé, il serait devenu gouverneur d'une province peu de temps après, si vous voulez. Mais il est au sommet. Et ce qui est frappant quand vous lisez donc, les livres 7 et 8 des Confessions, c'est que cette réussite incroyable d'un point de vue intellectuel et social se double de, alors je ne suis pas psychiatre, mais de ce qui s'apparente quand même de très près à une dépression nerveuse. Quand vous lisez les Confessions, et que vous lisez le récit de cette période à Milan où il est arrivé au plus haut de ce qui pouvait arriver, vous lisez l'histoire de quelqu'un qui est profondément et désespérément malheureux. Hein, et on a tendance à se moquer un petit peu d'Augustin dans ces pages-là quand il vous raconte qu'à Carthage, il vivait dans une débauche effrénée. Alors, effectivement, quand vous lisez les pages sur l'arrivée d'Augustin à Carthage quand il a une vingtaine d'années, vous avez vraiment l'impression, il vous dit, il n'y avait pas plus débauché que moi, je me perdais dans les orgies. Enfin, vous avez l'impression que vous n'avez même pas imaginé ce que c'était. Alors qu'en réalité, le brave Augustin, il est arrivé à Carthage, il a rencontré une jeune femme, un an plus tard, ils avaient un enfant, il lui est resté fidèle 10 ans. Enfin, en termes de débauche, hein, on doit pouvoir imaginer pire. Mais on se moque de ça, on a tendance à rire de ça, en disant, ah, il exagère, il fait du théâtre. Mais ce n'est pas du tout le cas. De lui, sentait ça, sentait, quand il repensait à cette période-là, la manière dont il l'a vécu, c'est comme un échec absolument dramatique. La manière dont il vivait, pareil qu'on lit la manière dont il raconte à Milan qu'il croise un mendiant ivre dans la rue et il s'effondre en disant « mais ce mendiant qui est ivre, il est heureux, moi qui ai réussi socialement, qui ai des amis qu'on admire, je suis profondément malheureux ». On lit ces pages-là, aujourd'hui on dit « ah, il exagère, c'est encore du théâtre, c'est de la comédie, etc. » Non, c'est pas de la comédie, c'est quelqu'un, et c'est très net dans les Confessions, qui est infiniment malheureux, qui a l'impression d'avoir profondément raté son existence, parce que ça fait 10 ans, puis à peu près qu'il a 20 ans, qu'il s'est dit qu'il voulait être philosophe, qui voulait être sage, qui voulait être juste, et il dit « je n'y arrive pas, et je ne vais jamais y arriver. J'ai 32 ans, ce qui est pourtant pas un âge désagréable, et je m'en sortirai pas, je suis fichu. » Et il faut prendre ces textes-là, il faut prendre ces pages-là extraordinairement au sérieux, parce que c'est, il me semble, profondément émouvant. Et qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez un des grands moments de la littérature de conversion chrétienne, hein, c'est dans le livre 8, des Confessions, la scène qui se passe dans le jardin de Milan, où vous avez le dénouement de cette dépression nerveuse, hein, une crise violente, où Augustin va se convertir. Alors, c'est un des textes, c'est comme le mémorial de Pascal, si vous voulez, que vous soyez croyant ou que vous ne le soyez pas, enfin, vous pouvez le faire lire à des croyants et des non-croyants, on ne peut pas nier qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là dans ce jardin, si vous voulez. Hein, vous pouvez le faire lire à quelqu'un qui n'est pas croyant, il vous dira que c'est une crise psychologique majeure, et enfin, un psychanalyste vous dira... Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose dans ce jardin-là. Hein, c'est Claudel à Notre-Dame, c'est Pascal dans La Nuit de Feu, c'est passé quelque chose d'indicible, où Augustin, d'un coup, qui voulait, au moment, c'est ça qui est extraordinaire, il voulait devenir chrétien. Il avait une tellement haute idée du baptême qu'il avait décidé de se faire baptiser, que quand il serait capable de mener une vie digne de ce que devait être un chrétien. Et or, Augustin, il avait une faiblesse, et il le dit de manière extrêmement nette, extrêmement précise et sans phare aucun, il avait une faiblesse, c'était les femmes. Il disait, je ne peux pas me convertir, je ne peux pas devenir chrétien parce que je ne peux pas me passer de femme. Je ne peux pas. Impossible. Vous avez des pages qui sont extrêmement belles, où au moment de cette crise finale, il dit, je veux devenir chrétien, je veux me convertir, mais j'ai des pensées, il y a un dialogue entre la sagesse et ce qu'il appelle ses vieilles amies. Hein, amicae meae, on sait très bien, c'est antiquae amicae meae, mes vieilles amies, quoi, mes vieilles pensées qui me disent, mais si tu te convertis, tu n'auras plus de femme. Si tu te convertis, il va falloir que tu abandonnes un certain nombre de choses, réfléchis-y bien. Et il dit, je ne peux pas abandonner ça, ça m'est radicalement impossible. Hein, et là aussi, on a tendance à ridiculiser ces passages-là, il ne faut pas, c'est extrêmement poignant. Parce que c'est pas quel... ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend l'idée de se convertir, mais extraordinairement au sérieux. Hein. Et dans ce jardin à Milan, alors il y a toute une scénographie, hein, tout un théâtre, il est avec un de ses amis dans le jardin, il se met à l'écart, il entend une voix qui lui dit « Tolé légué », prend Élie, tire au sort un passage dans l'Évangile, et il tombe sur un passage de la lettre aux Romains qui lui dit « plus de débauche, plus d'ivrognerie, plus de coucherie, etc. » Et là, miraculeusement, toutes ces angoisses s'évanouissent. Là, vous avez un récit de miracle. Et de fait, le chapitre s'arrête instantanément. C'est très long comme chapitre, le livre 8 est très long, c'est une longue crise, mais au moment où il lit ce texte-là et où il dit « à cet instant-là, c'était fini », le chapitre s'arrête et le livre suivant, ce sera son baptême. Et il faut lire ce livre-là de très près. Pourquoi ? Parce que c'est là que naît la doctrine augustinienne de la grâce. Si vous voulez. C'est dans cette conviction, Augustin, à ce moment-là, quand vous lisez ce qu'il vous raconte de son existence, il a l'impression d'être au plus bas où il pourra tomber. L'impression que c'est vraiment... Encore une fois, quand je dis que c'est une dépression nerveuse, c'est exactement ça. L'impression qu'il n'y a pas d'issue, qu'il s'en sortira jamais, qu'il n'est pas à la hauteur de ses ambitions, que tout ce qu'il a voulu toujours être, il ne le sera jamais, et que sa vie est un échec. C'est difficile à percevoir, parce qu'on est aveuglé encore quand on lit ces textes-là par le fait que c'était un succès extraordinaire, un intellectuel brillant. Mais lui, en tout cas, intimement, avait l'impression d'un échec massif et sans le moindre côté qui le sauverait. Hein, et c'est à ce moment-là, et c'est ça qui visiblement a déterminé l'ensemble de son œuvre, c'est à ce moment-là que Dieu est venu le chercher. C'est-à-dire qu'il est persuadé que c'est pas 5 ans plus tôt, pas dans sa jeunesse, pas au moment où il quittait l'église, pas au moment où il vivait hors mariage avec une femme, toute chose qu'il juge abominable, c'est pas à ce moment-là que Dieu est venu le chercher, c'est au moment où il était au point où sa vie ne l'intéressait plus, et qu'il pensait que c'était fini. C'est là que Dieu est venu le chercher. Et il a vécu ça comme une révélation qui fait que l'ensemble de sa vie, ensuite, l'ensemble de sa pensée s'articule autour d'une opposition entre deux termes, hein, d'une part l'humilité et d'autre part l'orgueil. Toutes ces histoires de péché originel, de prédestination, c'est très intéressant, mais au fond, l'idée forte d'Augustin, l'idée qui va déterminer l'ensemble de ses écrits, c'est qu'il y a deux types d'hommes, ceux qui se glorifient de ce qu'ils sont, hein, et ceux-là, même s'ils peuvent avoir des apparences de justice, avoir l'air de se conduire de manière admirable, ils sont pécheurs, et ceux qui ont conscience de leur faiblesse. Hein, vous trouvez, et l'idée d'Augustin, c'est que ce qui définit le juste, ce qui marque qu'un homme est juste, hein, aux yeux de Dieu, c'est que cet homme a conscience que sa justice, il ne la tient pas entre ses mains. C'est-à-dire que ce qui définit le juste pour Augustin, et on en trouve la formulation la plus éblouissante chez Pascal dans les Écrits sur la grâce, hein, c'est l'idée que le juste, c'est celui qui a conscience que sa justice peut s'arrêter à l'instant suivant. Qui n'a aucune assurance sur le fait que sa justice à un instant ne va pas lui échapper à l'instant suivant. C'est pour ça que la figure de Pierre et son reniement fascinent tellement Augustin. Parce que Pierre, c'est pas le juste qui a été orgueilleux puis qui a chuté, c'est le juste qui a chuté parce qu'il était orgueilleux. Hein, et pour Augustin, ça résume l'ensemble de ce que c'est que le chrétien. Donc Augustin, c'est ça. C'est quelqu'un qui a senti de manière aiguë, dans son existence, que Dieu venait chercher le pécheur au moment où le pécheur avait l'idée la plus basse de ce qu'il était. Alors, c'est pas une incitation... Alors, ce qui est beau avec Augustin, c'est que c'est pas une incitation à l'angoisse, à l'anxiété, à l'obsession de pureté, etc. C'est pas quelque chose de maladif. Il a réussi à transformer ça en quelque chose de plutôt enthousiasmant, je vais y revenir. Mais, en tout cas, c'est cette expérience fondamentale-là qu'il faut retenir des confessions. C'est au moment où le chrétien, où l'homme enfin accepte qu'il a raté, que seul, il n'est arrivé à rien, que Dieu vient le chercher, parce que c'est à ce moment-là que l'homme est capable de comprendre que seul Dieu peut lui donner d'être juste. Alors, il faut vraiment lire ce livre 8, et il faut le lire en le prenant au sérieux, même si ça demande un effort, parce qu'il a un côté théâtral, il a un côté pompeux, la personnification des vieilles amies, les débats intérieurs, tout ça, a un petit côté, si on le lit sans sympathie, ou a un côté ridicule, c'est vrai, hein. Mais si on le prend au sérieux, c'est, il me semble, hein, un des plus beaux textes sur ce que c'est que la vertu d'humilité, et sur ses conséquences. Hein, et ça, Augustin, c'est quelque chose qu'il a tenu tout au long de sa vie. C'est-à-dire, c'est pas en se convertissant, il a été cohérent avec ce qu'il venait de ressentir, il n'a pas pensé que c'était gagné. Quand vous lisez, c'est pour ça que je vous en parlais, le livre 10 des Confessions, qui est un livre dont on parle souvent pour des raisons, enfin, c'est là où il y a des longs développements sur la mémoire, etc., qui sont parfois un peu des tunnels, il faut être honnête, mais le livre 10 des Confessions, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est un évêque qui, en Afrique, est critiqué de toutes parts, qui a des ennemis qui lui en veulent, hein, qui a plusieurs hérésies ont en ligne de mire Augustin, parce qu'Augustin, c'est le représentant du christianisme en Afrique, et c'est lui qui est le plus grand défenseur du christianisme, donc il a plein d'ennemis, et bien il dit, pas de problème, vous dites du mal de moi, je vais vous écrire, en étant parfaitement honnête, ce qu'est ma vie en ce moment, où j'en suis, quels sont mes péchés, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes limites, etc. Et il le fait avec une honnêteté qui est absolument ébouriffante. Hein, quand vous voyez le livre 10 des Confessions, il vous raconte, alors on cite toujours les mêmes choses, et à mon avis, on ne met pas l'accent sur la bonne chose. On vous cite toujours les mêmes passages parce qu'ils sont un peu embarrassants sur les rêves érotiques d'Augustin, etc. Très bien. Le passage qui est vraiment central pour Augustin dans le livre 10, c'est où il dit « Ma vraie faiblesse, c'est que je suis sensible aux louanges. Hein, ma vraie faiblesse, c'est que j'aime qu'on me loue. je suis sensible aux compliments. Hein, et quand je suis sensible aux compliments, dit Augustin, j'arrive pas à savoir si ce que j'apprécie, c'est que la personne qui me complimente aime à travers moi Dieu, aime la justice à travers moi, et dans ce cas-là, ce serait plutôt une vertu estimable de ma part, ou si c'est par pur amour propre. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement la distinction, c'est qu'il dit « je ne sais pas ». J'arrive pas à discerner les choses. J'ai beau y réfléchir, j'y arrive pas et je pourrais pas y arriver. On dit, là, il y a un point aveugle dans mon âme que je peux pas lire. Il y a une très belle formule, hein, il dit, la langue des hommes est notre fournaise quotidienne, fornax quotidienne, notre épreuve quotidienne. Et c'est quelque chose de très concret, encore une fois, quand vous lisez la correspondance d'Augustin, il recevait des lettres qui étaient dithyrambiques, où les gens se remettaient entre ses mains, tout le monde l'admirait, tout le monde le complimentait tout, sans cesse. Et il dit, ça me pose un problème. Je sais pas. J'arrive pas à me lire. J'arrive pas à déterminer si c'est un reste d'amour propre en moi ou si, au contraire, c'est une vertu et c'est le fait que je suis content de voir des gens revenir au christianisme, aimer ce que je dis parce qu'ils aiment la vérité que je dis, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est cohérent. Alors même qu'il est converti, alors même qu'il est baptisé, alors même qu'il est évêque, alors même que c'est la star de l'église africaine, l'Afrique à ce moment-là, c'est la région la plus importante de l'Empire. Il dit, voilà, et il livre ça à tous les lecteurs en disant, je ne sais pas si je suis juste. Et je sais très bien où est ma faiblesse, je sais très bien ce qui peut me... Si vous voulez faire un parallèle qui, moi, Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, quand il dit, Dieu m'a infligé un tourment dans ma chair, il ne vous dit pas ce que c'est. Augustin, il vous le dit. Le livre 10, c'est un chef-d'œuvre, enfin, il faut un cran, on perçoit mal ça, pour écrire ce livre-là, le faire circuler, livrer au monde entier l'état de son âme, ses faiblesses, ses limites, ses doutes, etc. C'est un acte de courage littéraire dont moi, je ne vois pas beaucoup d'équivalent dans la littérature, mais pas seulement latine, mais universelle, si vous voulez. Ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est qu'il y a chez Augustin, depuis le jour où il s'est converti et il l'a traîné tout au long de sa vie, un sentiment aigu de la fragilité de la justice, de l'impossibilité d'être certain qu'on est dans le vrai, hein, et de la conscience que si Dieu ne nous aide pas, eh ben c'est un abîme qui s'ouvre. Et ce qui est beau chez Augustin, à mon avis, c'est qu'il a réussi à transformer ça non pas en névrose et en angoisse obsessionnelle qui serait extrêmement triste, mais en ce que font les confessions, c'est-à-dire certes la reconnaissance des péchés de l'homme, mais surtout une prière et un cri de louange à Dieu qui est absolument éblouissant. Quand vous lisez les confessions, ce que vous en retenez, si vous êtes normalement constitué, c'est pas... Mon Dieu, il a volé des pommes, il a couché un petit peu trop libéralement à Carthage, etc. Ce que vous retenez, c'est ce type-là dit, enfin, remercie Dieu, tout le temps, dans les fautes qu'il confesse, dans les fautes dont il s'est débarrassé, dans les péchés qu'il a encore. C'est intellectuellement, spirituellement, c'est absolument, à mon avis, absolument sidérant. Autrement dit, c'est pas une théorie tout ça. C'est pas une doctrine, c'est quelque chose qu'Augustin expérimentait, c'est une intuition née d'une expérience très concrète, et c'est quelque chose que visiblement il a expérimenté tout au long de sa vie. Et ensuite, dans un deuxième temps, et ben parce que c'était l'esprit que c'était, autrement dit quelqu'un de brillant, il a essayé de l'analyser. Il a essayé de comprendre ce que ça voulait dire. Il a expérimenté ce que c'était que la gratuité de la grâce. La gratuité de la grâce, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est que le Christ est venu le chercher quand il n'avait aucun mérite. Et ben ça, il a essayé de le comprendre. Et la gratuité de la grâce, eh ben ça a un certain nombre de conséquences logiques. Si la grâce est gratuite, c'est qu'elle n'est pas donnée au mérite humain. Si la grâce est gratuite, ça veut dire qu'il n'y a rien en l'homme qui puisse l'exiger de Dieu. Si le pécheur peut être abandonné, comme visiblement c'est le cas, puisque un certain nombre de gens dans le monde, Dieu ne vient pas les chercher, de deux choses l'une, soit ça signifie que Dieu est injuste, ce qui est une contradiction dans les termes, hein, soit ça signifie qu'ils ont mérité cet abandon. S'ils ont mérité cet abandon, ça ne peut pas être par leurs actes personnels, puisque leurs actes personnels ne peuvent pas constituer des mérites, ne peuvent pas non plus constituer des démérites, c'est qu'il y a quelque chose, indépendamment de la vie humaine, qui l'explique. Et ce quelque chose, la Bible le fournit, saint Paul le fournit, c'est le péché originel. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, comme je viens de reconstituer les choses, le péché originel n'apparaît pas comme un fondement de la pensée d'Augustin. Ça apparaît comme une conséquence logique de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a analysé. Si on présente la pensée d'Augustin en posant d'abord le péché originel, évidemment, c'est sinistre, c'est abominable. Si on comprend que c'est apparu pour lui comme une nécessité logique, il peut pas, soit Dieu est injuste, soit il y a le péché originel. Il ne peut pas penser les choses autrement. Dieu ne peut pas être injuste, donc il faut comprendre ce que c'est que le péché originel. Et c'est systématiquement comme ça, si vous voulez. Il prend une notion, et parce qu'il était Augustin, il l'analyse de la manière la plus logique possible. Le meilleur exemple, je ne sais pas du tout combien de temps il me reste. Je ne sais pas, une dizaine de minutes, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là, et c'est fini.
Ben, c'est vrai que si on veut faire des petites questions...
5 minutes alors.
Ouais, 5 minutes.
Ok, je suis là-dessus. Ce qui s'est passé... 5 minutes, non, 5 minutes, je suis dans les temps à peu près. Quand vous prenez la dernière controverse dont je vous ai parlé, entre Augustin et les moines de Provence, elle porte sur des points extraordinairement théoriques. Une question en particulier qu'en latin on appelle l'initium fidei, le début de la foi. Les moines de Provence disent à Augustin, écoute, c'est très bien ce que tu dis là, mais prêcher ça aux gens, ça va les désespérer. On ne peut pas prêcher au peuple que si Dieu ne décide pas gratuitement de l'aider, il est condamné. Et c'est des moines qui disent ça. Autrement dit, ils disent aussi à Augustin, écoute, on vit une vie d'ascèse, on vit une vie difficile. Tu ne peux pas nous dire que cette vie d'ascèse, elle ne constitue pas un mérite. Tu ne peux pas nous dire qu'on ne ferait pas ce qu'on fait uniquement si Dieu ne nous le donnait pas. Tu ne peux pas dire ça. Ça va désespérer le peuple, ça va désespérer les moines, ça va vider de leur substance la vie d'un certain nombre de communautés. Donc on va essayer de trouver un petit quelque chose pour l'homme. D'accord, les actes sont donnés par Dieu, d'accord, la foi est donnée par Dieu, mais on va laisser à l'homme le début de la foi. C'est-à-dire que Dieu appelle l'homme, mais le moment où l'homme répond à cet appel, le tout début, la foi commençante, ça on peut le laisser à l'homme. Et si vous voulez, c'est une proposition, c'est comme Pélage, hein, c'est quelqu'un de sympathique. Dire, on ne peut pas dire que les enfants morts sans le baptême vont en enfer, c'est une position sympathique, c'est une position qu'on ne peut que... peut que sympathiser avec ça. Dire, on va désespérer le peuple, on ne peut pas prêcher la grâce aux gens si on leur dit que ça ne dépend pas d'eux. Donc on va lui laisser un petit quelque chose. C'est sympathique, c'est humain. Et Augustin, ce n'est pas parce que c'est un abominable personnage qui va dire non, c'est parce que ça lui paraît comme une impossibilité logique. Il dit, c'est pas possible. Soit la grâce est gratuite, et à ce moment-là, tout est donné par Dieu, soit on laisse un petit quelque chose à l'homme, mais à ce moment-là, c'est plus Dieu qui est à l'origine des choses, et l'homme a gagné la grâce. Donc il dit, bah écoutez, pour le moment, tant que vous ne m'aurez pas montré... Ou dans la Bible c'est dit, tant vous ne m'aurez pas montré comment logiquement on peut tenir simultanément les deux propositions, l'homme a le début de la foi à son actif et c'est quand même Dieu qui donne tout, ce qui est une contradiction dans les termes, c'est le vieux problème logique du boulet de canon irrésistible et du poteau inébranlable, les deux tiennent pas quoi. Hein, je chercherai ce que c'est exactement ce problème-là. Mais il dit pas ça par méchanceté, il dit pas ça par sécheresse de cœur, mais il dit ça parce qu'il dit on va analyser les choses sérieusement. Ben, si la grâce est gratuite, l'homme ne peut rien par lui-même. C'est pas par méchanceté, c'est comme ça. Hein, si le péché originel a hypothéqué l'ensemble de la nature humaine, les gens qui ne reçoivent pas le baptême iront en enfer, même si c'est des gens très bien, même si c'est des enfants très mignons. D'accord ? Et donc, je ne vous dis pas que les propositions dont parle Borges, c'est des propositions augustiniennes, tout ça. Mais ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est ne pas présenter la pensée d'Augustin dans l'ordre d'un système, en partant de prémices, en allant vers des conséquences, et en présentant ça avec une sécheresse qui ne leur rend pas justice. Il faut simplement, et c'est une question de sympathie envers les auteurs, pas de sympathie au sens faible du terme, pas de sympathie au sens partial, c'est pas parce que j'aime bien Augustin que je dis ça, honnêtement j'aime beaucoup Pélage. C'est simplement qu'il faut essayer de comprendre, soit on se condamne à dire qu'Augustin est un sinistre personnage, parce que l'ensemble de sa vie dément. Hein, Augustin, c'est l'esprit le plus brillant de son époque, quelqu'un qui était incroyablement intelligent, qui a passé l'intégralité de son existence à se donner un mal de chien pour les gens dont il avait la responsabilité. Il détestait voyager, il ne rêvait que d'une chose, c'est d'être tranquille dans sa ville à faire de la philosophie. Et bien le jour où il a été nommé évêque contre son gré, il a voyagé dans toute l'Afrique pour prêcher à une population qui était analphabète, qui ne comprenait pas le latin, à qui il fallait tout expliquer, et il l'a fait avec une exigence intellectuelle et un sens pédagogique absolument sidérant. Hein, l'ensemble de sa vie montre qu'il a pris les choses très au sérieux, que ce n'est pas un abominable personnage. Et pourtant, soit la présentation systématique de la pensée d'Augustin va dans le sens que donne Borges, qui est c'est un docteur, c'est quelqu'un d'abstrait, qui ne connaît pas la réalité des choses et qui édicte des propositions théoriques, soit on prend la pensée dans son ordre. Hein, dans un autre contexte, j'utilisais une comparaison qui, moi, m'a toujours paru bonne, qui est celle du mystère de la Chambre jaune. Hein, le ministère de la Chambre jaune, Rouletabille, il dit qu'il y a deux manières de prendre un problème policier. Soit vous le prenez par le bon bout de la raison, soit vous le prenez par le mauvais bout de la raison. Dans un cas, vous trouverez très facilement la solution. Dans l'autre cas, vous condamnez à ne rien comprendre. Augustin, c'est pareil. Et je pense que beaucoup de grands philosophes, c'est pareil. Soit vous le prenez par le bon bout de la raison. Autrement dit, vous essayez, et c'est difficile, de comprendre pourquoi les propositions les plus choquantes, pourquoi les contradictions logiques, pourquoi les vraies difficultés de la pensée, comment un type intelligent a pu arriver à dire ça. Comment est-ce qu'un type comme Augustin a pu finir par dire que les enfants morts sans baptême iraient dans une marmite? Comment c'est possible? Soit on accepte d'essayer de penser ça, soit on le prend par le mauvais bout de la raison et on se contente de dire, et c'est la solution de facilité, c'est la pente naturelle de tout le monde, et ben c'est juste parce que c'était un sinistre personnage. Mais je pense que c'est pas satisfaisant. Tandis, ce que j'essaie de vous dire, et je conclue là-dessus, c'est que la formulation que j'utilise moi aussi hein, dans un théâtre de circonstances de doctrine de la grâce, elle est utile, parce qu'effectivement la pensée d'Augustin peut être résumée en un certain nombre de propositions que je vous ai dites tout à l'heure, mais il faut s'en méfier, parce que quelqu'un comme Augustin, c'était pas un théoricien. C'était quelqu'un qui avait vécu un certain nombre d'expériences, dont une fondatrice, et qui a essayé de vivre en cohérence avec cette expérience et de la comprendre le mieux possible. Le problème, quand on essaie de comprendre un mystère, c'est qu'inévitablement, on finit par tenir des propositions qui sont soit difficiles à comprendre, soit contradictoires, soit inintelligibles. Et Augustin n'a pas échappé à cet écueil-là. Voilà. Et je m'arrête ici. J'ai dit à peu près ce que je voulais raconter.
Comment est-ce qu'il voit l'évangélisation, par exemple, même le fait de prêcher ouais. Comment est-ce que, pourquoi est-ce qu'il prêche finalement?
Eh ben c'est vraiment une excellente question, et c'est une question qui lui a été posée dès le début. C'est-à-dire que ses adversaires et même ses amis en fait lui posent toujours la question qui est: mais si tu crois que tout est joué, c'est-à-dire si tu crois que les gens que tu as en face de toi, les foules africaines que tu as en face de toi, eh ben ça a été décidé de toute éternité, qui parmi eux serait sauvé et qui parmi eux serait condamné, pourquoi est-ce que tu prêches? Et Augustin est très embarrassé hein, par la réponse. D'abord, il a une réponse de bon sens qui est: surtout ne le dites pas comme ça. Quand vous prêchez, surtout ne dites pas les choses comme ça. Hein, il le dit d'une manière qui a été beaucoup critiquée. Il dit: quand vous êtes face à des gens, prêchez-leur comme s'ils étaient prédestinés au salut. Il faut faire en sorte que, au moins un temps, il ne faut pas leur dire une partie d'entre vous hein, va aller à la damnation. Et dans un deuxième temps, il dit: eh bien, il faut prêcher. Il faut évangéliser parce que vous ne savez pas si Dieu n'est pas en train de l'accomplir, le salut, à travers vous. C'est-à-dire que ceux qui doivent sauver dans la foule, c'est peut-être à travers vous qui va les sauver. D'accord ? Et vous, vous ne savez pas quel est le dessein de Dieu. C'est-à-dire, n'abandonnez pas, le fait de prêcher, c'est ce qu'il appelle le devoir de correction fraternelle. Hein, c'est-à-dire que c'est le travail du prédicateur de faire comme si les gens qu'il a en face de lui, il pouvait effectivement les ramener à la justice. Parce que de fait, il peut les ramener à la justice si Dieu lui donne. C'est pour ça que je dis Augustin, c'est quelqu'un d'extraordinaire parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui était un rhéteur, on a du mal à estimer ça, mais c'est quelqu'un qui était le rhéteur le plus brillant de son époque, l'orateur le plus extraordinaire de son époque, et ça se sent quand vous lisez ses sermons, enfin, ça prend à la gorge, enfin, ça dépend, il est plus ou moins réussi, mais il a une voix, il a un ton, il sait faire quand même. Hein. Et cet homme était persuadé, et c'est quand même la plus belle marque d'humilité qu'il a pu donner à mon avis, était persuadé que quelque effort rhétorique qu'il fasse, quelque mal qu'il se donne, au bout du compte, c'était pas lui qui décidait. Dieu allait choisir ou ne pas choisir d'agir à travers sa prédication, d'agir à travers son discours. Et ça, comme lui ne le sait pas, eh bien, il faut donner le meilleur de soi-même, parce que si vous ne donnez pas le meilleur de vous-même, vous ne donnez pas à Dieu ce qu'il attend de vous, et si ça se trouve, Dieu ne pourra pas accomplir ce qu'il avait prévu d'accomplir à travers vous. Donc, il faut prêcher, il faut se donner du mal, parce que le prédicateur est l'outil de Dieu, et son devoir, c'est de servir Dieu de la manière la plus scrupuleuse, la plus juste possible. Mais de fait, il est persuadé que quand quelqu'un, si je prends un exemple extrême, mais si quelqu'un se convertit en entendant un de ses sermons, ce n'est pas le mérite d'Augustin, ce n'est pas le mérite de son sermon. Hein, c'est Dieu qui aura décidé de toucher le cœur du fidèle par le sermon d'Augustin. Et justement, c'est pour ça qu'il faut se donner le mal. Ouais. Et d'autre part, l'autre idée, c'est que à partir du moment où le prédicateur commence à se dire « ceux-là, ils ne valent pas la peine que je me donne du mal », ou « ceux-là, je ne vais pas me donner trop de mal parce qu'il y en a la moitié globalement ou les deux tiers qui iront en enfer », c'est une marque de présomption telle que là, si vous voulez, le prédicateur chute à ce moment-là, ce qui est très mauvais signe. Mais c'est un problème qui a été soulevé par ses adversaires et auquel il répond dans un de ses derniers traités, et il y répond de manière assez embarrassée, c'est un vrai problème. Il dit effectivement.
Je pense qu'il y a une part de mystère. Moi, quand on me pose des questions un peu comme ça, je dis toujours, c'est comme pour la préscience. Hein. Est-ce que Dieu sait ce que je vais faire demain ? Parce que je suis encore libre, du coup. Je dis oui, Dieu le sait, mais il ne le sait pas par avance. C'est-à-dire, tout est joué ou pas tout est joué. C'est faux de dire tout est joué par avance. Parce qu'en fait, quand on dit ça, subrepticement, on est en train de soumettre Dieu aux conditions spatio-temporelles de son humanité pour ensuite l'en extraire.
Et ça, c'est Augustin.
Et ça, exactement, oui. Mais sur l'impression, c'est des fois.
Non, c'est exactement ça. Le problème, c'est que quand on dit, comme j'ai dit, Dieu décide de toute éternité, nous, on transforme de toute éternité en avant.
Oui, mais il y a une ou deux fois où Augustin tombe lui-même dans ce piège. Mais disons que, en tout cas, je trouve que. Alors, ça nécessite un effort de. Je sais pas si on peut dire d'abstraction, d'intelligence, mais en fait, ça change considérablement les choses. C'est au lieu de vider. De sa substance, le poids de nos actes, ça lui confère en fait les choses. C'est-à-dire, je suis intégré, c'est exactement ce que vous disiez, je suis intégré dans le dessein de salut de Dieu. J'ai mon rôle à jouer, personne ne peut le jouer à ma place.
Mais c'est une conception de la liberté qui n'est pas une liberté d'indifférence, c'est-à-dire que la liberté humaine, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, ça, ce n'est pas le bon sens de la liberté. Le vrai sens de la liberté humaine, c'est de faire ce à quoi Dieu appelle. C'est la réponse d'Augustin, ça peut se discuter. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut penser, et des tas de philosophes, des tas de théologiens en ont discuté, mais c'est la réponse d'Augustin. Mais lui-même disait, avec des formulations où il disait, il y a une phrase très célèbre d'Augustin où il dit dans tel traité, j'ai lutté pour le libre arbitre, mais finalement la grâce a vaincu. J'ai essayé de concilier les deux, j'ai essayé de faire en sorte de sauver le libre arbitre dans ma doctrine de la grâce, mais au bout du compte, la grâce vainc, la grâce gagne. Ça ne veut pas dire que le libre arbitre disparaît, ça veut dire qu'il est intégré au dessein que Dieu met en œuvre par sa grâce. C'est un vrai problème, enfin, c'est des discussions à finir, hein. Mais c'est comme ça. Oui, dites-moi.
Moi j'ai une question sur la petite partie des gens qui vont être sauvés, puisque Saint-Augustin n'a pas vraiment de base textuelle pour ça, et justement, est-ce qu'il le justifie, est-ce qu'il en débat un petit peu
En fait, j'exagère un peu quand je dis qu'il a...
Il y a comme dans l'Évangile, il y a beaucoup d'appelés,
mais ce qui est vrai, c'est que... ce qui est étonnant, c'est qu'Augustin, il ne se prononce pas trop souvent sur le nombre. Il le fait dans un ou deux textes, il évite généralement le problème, et dans ces un ou deux textes, il est extrêmement sévère, il dit « paoki, paokissimi », enfin, il est vraiment très dur, et il ne cite pas de texte. Il se contente de dire ça comme une remarque annexe, comme si c'était une évidence. Ce qui est quand même un petit peu étonnant, parce que rien ne l'exige, en particulier dans des prédications, pourquoi est-ce qu'il l'ajoute ? Je pense, dans les textes où il le fait, c'est souvent des textes où il explique la notion de masse de péché, de masse de condamnation, et c'est probablement pour faire un effet rhétorique, hein, pour donner l'impression que vraiment l'humanité est perdue, c'est quelque chose de grave. Donc il n'est pas question de s'imaginer que tout le monde va s'en sortir, il faut bien marquer que c'est quelque chose de grave et que les conséquences vont en être terribles. Mais il ne l'appuie pas tellement sur des textes, et c'est annexe en général. J'ai donné une ampleur à la...
Est-ce qu'on peut voir ça comme un appel ou un rappel plutôt à l'humilité ?
Oui, probablement. C'est une manière de faire peur.
Ouais.
Augustin, il a eu des textes qui ont été très très nettement reprochés.
Je pense que le faible nombre de salut a beaucoup plus d'importance au XVIIe chez Augustin que chez Augustin lui-même.
Mais
chez Augustin,
les Augustiniens, que j'aime beaucoup, Jansénius, Arnaud, tous ces gens-là, sont fascinés de manière un peu malsaine par l'idée que Dieu envoie des gens à la damnation, qu'il n'y en a pas beaucoup qui seront sauvés. En plus, il y a un petit côté...
C'est très
plaisant. C'est port royal, c'est un petit huis clos. Enfin, j'aime beaucoup ces gens-là, mais il y a quand même une sensation d'être... quelque chose qui est très étranger à Augustin.
Je pense que c'est vrai chez les Augustiniens du XVIIe, mais pas tellement chez...
Augustin, il le dit de temps en temps, mais c'est assez frappant, parce que c'est pas... Moi, ça m'a toujours frappé, parce que c'est pas quelque chose qui lui ressemble beaucoup, cette insistance sur le petit nom. C'est pas quelque chose qu'on attend. Mais je pense que c'est pour faire peur. Il avait une haute idée de l'usage de la crainte en manière de... Non, mais c'est vrai.
C'est Jonas, hein.
Et puis ça, il a l'usage de la crainte.
Un jour, et Ninive sera détruite.
D'un coup, voilà.
Et résultat,
ça
fait l'effet.
Ça fait réfléchir.
Ça fait réfléchir, et du coup, tout le monde est sauvé.
Ouais.
Donc c'est
je pense qu'il y a
c'est une chose. Petite rhétorique.
J'ai un peu surligné les passages, il n'y en a pas tant que ça où il dit ça. Mais c'est des passages frappants, qui lui ont été beaucoup reprochés.
Et est-ce qu'on peut refuser la grâce de Dieu ?
Oui.
Alors, pour Augustin, la question a deux sens, en fait. C'est-à-dire que si Dieu a décidé de sauver l'homme, Dieu sauvera l'homme. C'est-à-dire que quand Dieu a décidé de donner sa grâce, la grâce, elle est victorieuse, efficace, et l'homme ne peut pas lutter contre la grâce. En revanche, par exemple, ce qu'a fait Adam, c'est refuser la grâce de Dieu. C'est-à-dire que la grâce, d'une part, avant le péché originel, l'homme pouvait refuser ou accepter. Dans l'homme actuel, pour Augustin, c'est difficile de répondre. Si Dieu a décidé de le sauver, il ne peut pas. Il ne peut pas résister, il le fera immanquablement, et la grâce produit inévitablement son effet. En revanche, on peut considérer que le pécheur, celui qui détourne de la grâce de Dieu, refuse une grâce. On peut considérer. Mais disons que là, parce qu'il y a deux formes de grâce pour Augustin. Il y a la grâce, ce que le XVIIe va transformer en grâce suffisante et grâce efficace, ce qui n'est pas du tout augustinien. Mais pour Augustin, il y a effectivement deux formes de grâce. Une grâce qui est à la disposition de tout le monde, et dont vous pouvez choisir de faire usage ou non. C'est celle qui était à la disposition d'Adam et qui l'a refusée. Elle est toujours à la disposition de tout le monde après le péché, Hein, et l'homme, quand il se détourne de Dieu, quand il fait un mauvais usage de son libre arbitre, il refuse cette grâce. En revanche, la grâce du Christ, celle que Christ donne, celle que Christ a apportée à l'humanité et celle qui est donnée spécifiquement à certains, l'homme ne peut pas y résister pour Augustin. C'est-à-dire qu'elle produit immanquablement son effet.
Mais son effet, c'est que tu veux librement la grâce.
L'effet, c'est qu'il vous ça vous libère.
C'est pas est-ce que si Dieu a décidé de nous sauver, tu vois, parce qu'on est à nouveau en train de dire les dés sont joués, sont lancés, pardon, c'est Dieu décide de me sauver. Cette parole éternelle, elle vient se concrétiser dans ton histoire, mais son. La deitatio victrix, c'est que, justement, pas au sens...
Ça libère.
Que ça va rendre ta liberté victorieuse.
Voilà. L'image frappante, c'est l'image de l'addiction. C'est-à-dire que l'homme, avant la grâce, l'homme depuis le péché, est dans un état où il est addict au péché. C'est-à-dire qu'il est comme face à une tablette de chocolat, vous avez la liberté de ne pas l'ouvrir, mais vous allez l'ouvrir. C'est comme ça. Hein, vous ne lutterez pas contre. La grâce, à laquelle vous ne résistez pas, vous donne le pouvoir, vous réoriente correctement. C'est-à-dire d'un coup, vous vous rendez compte que ce qui est votre bien, d'un coup, vous voyez... quel est le bien, et irrésistiblement, vous allez vers ce qui est le bien. L'homme veut le bien, seulement il ne sait pas lequel c'est. Hein, depuis le péché, il croit que le bien, c'est la tablette de chocolat. Avec la grâce, il se rend compte que le bien, c'est Dieu. Donc, effectivement, vous n'y résistez pas, mais c'est pour ça qu'on utilise le terme de délectatio. Ce n'est pas quelque chose qui vous force, c'est quelque chose qui vous délecte, qui vous montre où est le bien, qui vous le rend aimable et agréable. Vous voyez ce que là aussi, c'est une nuance qui peut se discuter.
Vous avez voulu en parler de la double prédestination.
Ah oui, mais ça, il ne faut pas en fait en parler. Non, la double prédestination, c'est quelque chose qui est... Ce qu'on appelle double prédestination, c'est l'idée que Dieu prédestine activement les justes au salut et les pécheurs à la damnation. C'est-à-dire qu'il pousse les justes à la justice et il pousse les pécheurs au péché. Hein? C'est quelque chose qui a été développé dans l'histoire, en particulier le plus grand double prédestinationniste, c'est un moine, un hérétique qui s'appelle Gottschalk au Moyen-Âge. Et évidemment, vous trouvez ça chez Calvin, etc., qui s'inspire d'Augustin. Parce que vous avez dans Augustin des formules où vous avez l'impression, enfin des formules qui sont maladroites, où Augustin dit effectivement qu'il y a des formules où il dit que Dieu prédestine les pécheurs au péché. Des phrases de cette cavilla. Ce que veut dire Augustin quand il dit ça, c'est pas qu'il pousse les pécheurs au péché, c'est qu'il ne leur refuse la grâce. Hein, autrement dit, il ne leur donne pas ce qu'il n'est pas obligé de leur donner, et ce sans quoi ils ne pourront pas accomplir la justice. Mais ce faisant, dit Augustin, il ne les pousse pas au péché, c'est quand même eux qui y iront. Il ne fait que leur refuser. Donc il y a une prédestination positive, qui est de donner la grâce et de pousser au salut, et une prédestination négative, qui est de ne pas donner la grâce à ceux qui seront réprouvés. Mais d'un côté, il y a un décret positif, et de l'autre côté, il y a une absence d'action. Alors on peut considérer que c'est une pirouette, hein, on peut considérer que c'est un tour de passe-passe, mais bonne philosophie, ça ne l'est pas quand même.
L'image de l'addiction est assez parlante.
Je pense que c'est...
Parce qu'on peut être addict au tabac et amoureux de quelqu'un. C'est deux choses très différentes. Et la grâce, on est dans une logique de l'amour.
Oui, voilà. Non, mais
alors que le péché, on est dans une logique de l'addiction.
Mais de fait...
C'est pas du tout symétrique.
Oui, voilà. Et de fait, il y a pas mal de lecteurs d'Augustin, de bonne foi parfois, qui poussent Augustin dans ce sens-là, parce que ça a un côté séduisant, ça a un côté... pas séduisant, je sais pas, mais grandiose. Hein, la vision de Dieu qui... tire les ficelles de tout le monde, à gauche comme à droite, et qui fait ce qu'il veut, c'est un côté éblouissant. Voilà. Mais c'est pas ce que dit Augustin. Donc il y a des gens qui le font de bonne foi, enfin, pas mal d'Augustiniens du XVIIe ont tendance à pousser un peu dans ce sens-là, même s'ils s'arrêtent avant la fin. Vous avez des tas d'auteurs au XXe siècle qui n'aiment pas Augustin, les universitaires, et qui poussent Augustin dans ce sens-là. Il y a un des plus célèbres articles sur la doctrine de la grâce d'Augustin, qui a été écrit par un Allemand, un religieux, je ne me rappelle plus son nom, mais au début du siècle, qui présente Augustin de manière très convaincante, hein, en expliquant que c'est un théoricien de la double prédestination, c'est-à-dire que Dieu pousse les gens à la justice, pousse les gens au péché. Le gros problème, c'est imaginer un Dieu qui pousse les gens au péché, c'est plus qu'un problème, si vous voulez. Hein, pour un chrétien, c'est une contradiction dans les termes, enfin, c'est très très embêtant. Mais en tout cas, Augustin n'a jamais dit ça, mais il a utilisé des formes. D'une part, on peut considérer que c'est un tour de passe-passe, hein, la distinction entre un décret positif et un moment où Dieu se dégage, il dit « je m'enlève les mains, qu'ils fassent ce qu'ils veulent », c'est aussi embêtant. Enfin, on peut aussi en discuter de cette image-là. Hein. Augustin dit ça et utilise des formules, dans le feu de la polémique, pour raccourcir ces formules, des formules qui, effectivement, disent que Dieu prédestine l'homme au péché, ce qui est très gênant. Mais il faut être honnête, et ce n'est pas seulement par sympathie envers Augustin que je le dis, très honnêtement, Augustin est pas un double, enfin, ne défend pas la double prédestination. Il distingue conceptuellement très nettement l'action positive de Dieu d'un côté et l'absence d'action de l'autre. Ce qui revient à dire que que dans l'ordre de la justice, l'homme doit tout à Dieu, et dans l'ordre du péché, l'homme est responsable de tout.
Bah merci beaucoup. Hein, c'est
une dernière après-chose.
C'est juste
pour dire que c'est par rapport à l'histoire de désespoir, on voit dans laquelle l'homme est plongé avant d'être aidé par Dieu. Oui. Est-ce qu'en fait, du coup, on peut simplement vivre dans ce désespoir sans, est-ce que ce désespoir-là, c'est déjà le début de la grâce?
C'est une bonne question. Oui, c'est une très très bonne question, parce qu'on peut considérer que tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Autrement dit, on peut considérer que le fait même de sentir à ce point-là la misère de l'homme, c'est déjà une perception de ce dont on a besoin et de la grandeur de Dieu par contraste. Il n'a pas traité le sujet. Il me semble qu'une réponse augustinienne serait de dire ça. Cela dit, on ne peut pas exclure, et Augustin n'exclut pas, un état où, après tout, c'est ce que fait Judas, hein. Le moment où, ce qui sépare Judas de Pierre, pour Augustin, c'est pas tellement la gravité de l'acte, c'est que Pierre a pleuré et a demandé la grâce de Dieu, alors que Judas a été désespéré. Donc il y a bien des cas où le désespoir s'accompagne pas d'une aspiration à la grâce. Et ce cas-là, c'est peut-être ce qu'il y a de plus terrible, si vous voulez. Mais il y a des très beaux passages. Il y a une très belle chanson de Bob Dylan sur Augustin, qui parle de ce moment-là. Non mais c'est vrai, c'est une très belle chanson sur un de ses plus beaux albums. Le moment où il était le plus créatif, qui s'appelle J'ai rêvé que j'avais vu Saint-Augustin. Et où c'est l'histoire d'un rêveur.
C'est raconté avec son Nobel, tiens.
Non, c'est une très, très, c'est une très très belle chanson, et qui saisit ce moment-là. Qui saisit le moment où l'homme se rend compte qu'il a tout raté. Quoi. Et à ce moment-là, et Augustin ne le dit pas de la même manière que Dylan, mais c'est exactement la même idée. Non mais. Je plaisante à moitié, hein, mais écoutez-là, c'est vraiment très beau.
Si c'est la parole du fils prodigue. Hein,
soit à ce moment-là, soit on se tourne vers Dieu, soit on se dit qu'on a perdu.
Ouais, exactement.
Les deux sont possibles. Et ça, c'est un choix qui est. Augustin l'a fait à Milan en 1386. Ben, je vous remercie.
Merci beaucoup.